Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les Immanquables.
Les Immanquables, commentés aujourd'hui par Rémi Barré, Daniel Riolo, Thierry Moreau et Julien Damon. Et nous allons commencer tout de suite, Rémi, avec le retrait du jour.
Oui, les hôpitaux français qui abritent des fresques à caractère pornographique ou sexiste dans les salles de garde vont devoir les retirer dans la concertation avec les internes. C'est ce que stipule une instruction ministérielle. Saisie en référé par l'association Oser le Féminisme au nom de la dignité des femmes, le tribunal administratif de Toulouse avait déjà ordonné, c'était en décembre 2021, le retrait de certaines décorations des salles de garde du centre hospitalier universitaire, le CHU, de la ville.
Mais c'est bien que le gouvernement saisisse le dossier d'hôpital en faisant ça, comme s'il n'y avait pas autre chose de plus important à faire. Thierry Moreau, ça va dans le bon sens, le retrait de ces fresques pour vous ?
Je trouve ça ridicule. C'est une tradition. Moi, il me trouve que d'une fois dans une salle de garde.
Carabine.
On peut trouver ça de mauvais goût, on peut trouver tout ce qu'on veut, mais bon, voilà. Je pense pas que ce combat fasse avancer la cause féministe. Ou alors, à ce moment-là, il faut aussi masquer certaines fresques qu'on peut retrouver à Pompéi dans certaines salles parce qu'ils ont découvert il y a pas très longtemps une maison qui était en fait une maison de passe où il y avait des fresques magnifiques et il faudrait les masquer, ou dans les musées masquer certaines photos. Enfin, je veux dire. Voilà, je pense que, comme vous l'avez dit très justement, il y a d'autres combats à l'hôpital que de masquer les fresques qui amusent ou pas les carabins dans leur salle de garde. Voilà, je trouve c'est une fausse polémique et je trouve ça stupide.
Je vous sens très dubitatif, Julien Damon, sur le sujet.
Parce que je crois que c'est pas un sujet si simple que ça, parce que vous avez des jeunes étudiantes en médecine qui peuvent être choquées aujourd'hui, c'est ainsi, par de telles images ou de tels chants aussi, parce que les carabins aiment aussi la gaudriole et les chansons un peu olé olé. À l'inverse, je pense que dans ces métiers que l'on apprend, on va être confronté à des choses horribles.
C'est ça.
Alors qu'un peu de pornographie et de chansons un peu porno, elles aussi.
Le porno, ça détend.
Non, mais on rappelle que c'est leur salle. Les patients n'y ont pas accès.
Ils sont là, ils se détendent entre eux, ils racontent des choses ignobles.
C'est pas que le porno, vu ce qu'on en sait maintenant.
Non, mais c'est pas le porno.
Ce soit quelque chose qui détend.
Ils sont pas là en train de projeter des films pornographiques. Ce sont des dessins pornographiques. Ils mettent des dessins de Villemain, si tu veux. C'est de l'art, dans une certaine mesure. Bon, après ça, c'est de l'ordre de la tradition, je trouve. Et honnêtement, l'argument d'Estelle est parfait. Franchement, est-ce que vraiment c'est une priorité que de faire perdre du temps à des administrations aujourd'hui débordées par mille problèmes vitaux bien plus importants que sont les hôpitaux, avec des sujets secondaires dont devraient se débrouiller entre eux les jeunes étudiants?
Absolument.
Daniel Riolo, vous êtes plutôt pour, manifestement.
Non. Ah. Je ne sais pas. J'écoute et effectivement, Julien vient peut-être de me convaincre. Ah. En tout cas, sur le.
Et viens décorer ton bureau.
Non, mais sur. Mais si ça gêne, c'est un problème.
Non, mais sur le point, point qui est de dire que effectivement, il y a d'autres préoccupations, certainement. Maintenant, je suis pas trop pour la société du ressenti. En fait, je suis très partagé parce que si c'est pour donner raison aux wokistes qui veulent tout revoir et tout canceller, ça m'emmerde. Dans le même temps, toutes les traditions ne sont pas forcément bonnes et des dessins pornographiques que ça puisse choquer dans une salle de garde. Bon, ok. En fait, j'entends les deux parties sans réellement réussir à me décider. Alors quand c'est comme ça, bah, je suis plutôt pour qu'on laisse comme c'était et puis c'est tout, quoi. Voilà. Et puis on a le droit aussi de pas avoir des opinions tranchées tous les jours. Donc excusez-moi.
Après, il y a peut-être. C'est bien la première fois que ça arrive chez vous.
Après, il y a et donc c'est pas bien peut-être.
Ben non, je préfère quand vous êtes tranché.
Après, il y a peut-être un sujet quand même. Il y a peut-être un sujet après sur l'hypersexualisation dans le monde de la médecine, l'hypersexualité des étudiants en médecine.
Et le bizutage, Rémi, le bizutage qui parfois fait.
Justement,
c'est fini ça.
Je dis ça parce que.
C'est bien ce que je dis, c'était une tradition. Donc que ce soit fini, c'est pas plus mal. Pardon, Rémi.
Je dis ça parce que, encore récemment, c'était en mars 2021, l'Association nationale des étudiants en médecine
dans une enquête, avait dénoncé le harcèlement sexuel très fréquent lors des stages de médecine. Près d'un tiers des étudiants ont été victimes de harcèlement sexuel.
Pour moi, c'est un autre sujet, le bizutage.
Oui, mais ça peut être dans le cadre. Mais c'est ainsi la décoration.
Oui, mais c'est pas comme si c'était largement le cadre des écoles. C'est pas bien, évidemment. Il faut lutter contre ça.
Ça dépasse largement le cadre des écoles de médecine, le bizutage. Je suis désolé.
Oui, voilà, c'était particulier.
Bon, c'est pas parce qu'il y a des fresques au mur qu'il y a des bizutages. Je suis désolé.
Ça participe d'un contexte et d'un climat.
Les études de médecine, t'es confronté à la mort, t'es confronté à la vie.
Et donc parce que t'es confronté à la mort, donc t'as le droit de choper la secrétaire sur le bureau.
Personne ne dit ça.
Il n'y a pas de secrétaire dans les salles de garde, première chose. Non, mais plus sérieusement, le truc, c'est que je trouve parfaitement compréhensible, rationnel, ça veut pas dire que c'est forcément justifiable, que des étudiants qui sont confrontés à des choses ultra dures, tu peux difficilement faire plus dur, s'éclatent en racontant n'importe quoi. Et en faisant n'importe quoi.
C'est pas raconter n'importe
les uns
quoi,
les autres,
c'est des fresques
mais en
porno.
Chantant. Mais les fresques porno, faut voir ce que c'est. C'est rien par rapport à tout ce que tu peux trouver sur Internet en permanence.
Mais oui.
Ok, alors, très bien.
Le ras-le-bol. On va décorer le décor de Estelle Midi avec ça, Matt.
C'est ça, le ras-le-bol du jour.
Depuis le second tour des élections municipales 2020, 901 élus des communes de Loire-Atlantique ont démissionné. C'était seulement 880 durant les 6 ans de la précédente mandature.
Ah oui, c'est beaucoup.
Vous me suivez? Bah oui, 901, donc en 2 ans, on va dire, alors qu'il y en avait 880 en 6 ans. Ce sont à 85% de simples conseillers municipaux ou communautaires, surtout de petites et moyennes communes qui rendent leur écharpe tricolore, plus rarement des adjoints et un seul maire. C'est un tableau dressé par l'Association des maires de France 44, mais on peut l'élargir à de très nombreuses autres départements.
Et pourquoi
le ras-le-bol?
Le ras-le-bol, parce que c'est la plupart, on parle de conseillers municipaux, communautaires, des petits élus, donc ils touchent juste un...
Ah non, ils touchent pas. Ils sont bénévoles.
Non, non, mais il y a un dégrèvement aussi pour la présence lors des conseillers municipaux.
Non. Attends, je suis élu municipal, je peux te le raconter.
Il n'y a pas de...
Non, je suis élu municipal dans l'Oise, dans un tout petit village.
Donc c'est du bénévolat.
Un petit peu dessous. Tous les autres, c'est du bénévolat. Ça peut être le cas dans les grandes villes.
Mais moi, j'aimerais savoir,
mais dans
les petits
villages, le ras-le-bol, c'est en permanence.
Parce que
tu es agressé par la partie de tes concitoyens.
Voilà.
Tu as des responsabilités relativement importantes. Tu n'es pas forcément remercié. Il faut voir que la France tient par rapport à ce bénévolat-là, qui est un bénévolat politique, ou un bénévolat d'action publique, c'est pas que le bénévolat associatif, et tu trouves pas une grande reconnaissance de tes concitoyens. Au contraire, t'as des demandes qui s'accumulent et avec des responsabilités qui pèsent sur toi.
Et t'es corvéable à merci. C'est-à-dire que tout le monde vient te voir quand tu fais ton marché en te disant, monsieur machin, et mon caniveau.
Et moi, je pense que les agressions, c'est le vrai argument.
Il y a pas que ça.
Le maire qui s'est agressé, mais on va appeler ça sur un terme plus général. Il y a de l'incivilité et l'incivilité a le droit.
C'est mieux de le dire comme ça.
Plus généralement, c'est très peu agréable. Quoi. Voilà, tu fais ça gratuitement, bénévolement, et t'as des gens qui t'arrêtent et te posent 1000 questions, te parlent mal, pour être clair, voire t'agressent plus largement.
Ah, oui. Plus faire tes courses, quoi.
D'où l'idée de la réflexion sur le statut d'élu, qui est un vaste sujet.
Ça vous étonne, vous, ce ras-le-bol, Daniel, ou pas du tout?
Vous
pourriez être étonné, vous dire c'est fou.
Le nombre,
C'était mieux avant.
Le nombre, mais ce qui ne m'étonne pas, c'est ce que vient de décrire Julien, c'est le contexte qui pousse beaucoup de gens à ne plus vouloir, on peut appeler ça une forme de dévouement, c'est-à-dire d'aller servir la petite commune, la municipalité, et de se dire je vais rester à la maison, parce que de toute façon, si c'est pour me faire agresser ou qu'on me parle mal à cause de ça, et parce qu'on est dans un contexte toujours plus violent dans ce pays.
Ça, c'est vrai.
Finalement, on ne devrait pas être étonné.
Oui, mais alors, est-ce qu'il faut, est-ce que ce serait différent si on défrayait justement les conseillers municipaux? Parce que tu t'es dit, je me fais insulter, au moins c'est pour de l'argent.
J'ai vérifié, effectivement, dans les communes de moins de 100 000 habitants, pour les simples élus municipaux, effectivement, pour la grande majorité d'entre eux, il n'y a aucun revenu, c'est du bénévolat.
Et donc, à un moment, tu te dis,
combien tu ferais payer le pauvre con, par exemple?
Non, mais j'en sais rien.
Combien je peux
Non,
je prends 100 balles. Si c'est pour un pauvre con sur le marché, ça passe.
Tu fais ça parce que t'as envie d'aider ta commune, a priori.
C'est ce que je disais, une sorte de dégoûtement.
Si t'es insulté, si tu y passes du temps, etc., et qu'en plus t'es pas payé. Ouais. Si t'es payé, à la limite, tu te dis, allez.
C'est pour ça que je te demandais à combien t'évalues l'insulte.
Je pense que c'est pas tout à fait la même chose.
Ça tranchera pas comme ça. Il faut une vraie réflexion sur justement le statut de l'élu, le respect, la protection quand ils sont insultés. Protection juridique, notamment. Enfin, il y a plein de choses à discuter, mais effectivement, ça pourrait être une voie de sortie.
Et surtout que plus personne veut être élu. Donc, en fait, s'il y avait au moins un petit salaire, les gens, ça lui pousserait plus à avoir ses fonctions.
Je suis pas forcément favorable à ce qu'il soit rémunéré, parce que le bénévolat, c'est bien, et puis ça fait tenir un peu le monde. Oui, peut-être aussi, mais je suis pas à mes petits camarades. ils sont pas là non plus dans les Anses, là, dans un petit village de l'Oise, et vraiment, bon, vive Shell en Valois, mais qu'on peut appeler aussi Shell sous subvention, mais c'est un autre sujet. Eh bien, là, vous avez des gens qui ne réclament pas ça, ils réclament simplement la possibilité de faire des choses sympas pour tout le monde. Le grand truc, c'est justement, je pense que beaucoup de nos contemporains sont persuadés qu'on est payé. Ce titre, voilà. On leur doit des gros. Eh ben, c'est pas le cas.
Et tout ça, voilà. S'inscrit également dans le climat où on entend sans arrêt des gens dans
vous
la rue
où les
politiques braillards sur les plateaux entretenir l'idée trop payé, les politiques sont trop payés. Ouais, bah, bientôt, il n'y en aura plus du tout parce que ceux qui sont au gouvernement qui pourraient bosser dans le privé pour gagner deux fois plus. On continuera de leur taper dessus, comme les députés d'ailleurs. Les députés, là, c'est la même chose, puisqu'on pense qu'ils sont trop payés. Ben, ils iront bosser ailleurs, plus personne voudra être élu, et on verra comment marchera notre pays et la République.
Les demandes du jour, Rémi.
Jamais la France n'a eu à traiter autant de demandes de droit d'asile sur son sol. 154 597 en 2022. C'est 16,5% de plus qu'en 2021. Le niveau de 2019, c'est la dernière année de référence avant Covid, ouais. Avec ses 151 283 demandes d'asile, est dépassé.
Est-ce qu'on connaît les raisons de ces demandes d'asile?
La plupart du temps, alors ça évolue d'année en année, mais les demandes d'asile viennent pour la plupart du temps. Alors, c'est paradoxal, elles sont refusées en général. C'est les Albanais, il y a eu beaucoup d'Afghans aussi. Les Afghans, on peut comprendre, surtout l'évolution politique de ces derniers mois. Pour les Albanais, par exemple, la plupart sont refusées parce qu'il n'y a pas de raison, selon les autorités, ouais. Évidemment.
Économique,
mais justement, c'est pas le droit d'asile. Non, ça rentre pas dans ce cadre-là.
On fait quoi, Julien Damon, parce que on peut imaginer qu'en fait ce chiffre il va être encore plus haut l'année prochaine, encore plus haut, puis encore plus haut.
Je pense que c'est extrêmement préoccupant. Alors évidemment c'est un sujet extrêmement sensible, tout le monde se bagarre pour dire il y en a trop, il n'y en a pas assez, je suis pour les exilés, je suis contre les exilés, etc. Mettons ça parfaitement de côté, je pense qu'il est bon de dire que la France est confrontée à une nouvelle forme d'immigration, en tout cas une forme d'immigration qui s'intensifie par la demande d'asile, et que cet asile est un rien dévoyé pour des raisons économiques albanaises, dans le cas albanais, et qui ne correspond plus à ce pourquoi la France a adhéré aux grandes conventions sur l'asile. Mais c'est un sujet international, pas qu'un sujet français.
Ah, on dit qu'on étudie les dossiers, il y a des critères,
je pense juste qu'il faut revoir les critères et que la demande d'asile économique devrait pouvoir être extrêmement rapidement mise de côté.
Exactement.
Alors que la France a fait ça, et les pays ont fait ça, convention de Genève, etc., pour des raisons de
trac politique. Alors, je te dis n'importe quoi, si tu as une demande d'asile d'un Albanais qui est chef en cuisine, par exemple, et que tu as une pénurie de main-d'œuvre, tu fais quoi?
Mais c'est un sujet d'immigration économique. Donc,
ça n'a rien à voir avec.
La demande d'asile.
C'est pas la demande d'asile politique.
Mais il y a un moment, en fait, est-ce que tu prends, C'est ça que je veux dire.
Non.
Mais c'est pas les mêmes bureaux.
Il y a un sujet. C'est est-ce qu'on est, nous, oui ou non, on a la capacité, oui ou non, de devenir un réfugié? C'est ça la question, un réfugié politique. C'est pas de savoir si on peut devenir un
réfugié. Et il y a des critères.
Mais l'économie, elle compte aussi.
Et ben alors à ce moment-là, on fait une politique d'immigration.
Là, c'est la politique d'immigration, c'est pas la même chose.
Et de l'autre, il y a la demande d'asile. Le problème, c'est que la demande d'asile devient une filière de la demande économique.
Il faut que la France.
C'est pas normal.
Il faut que la France reste une terre d'accueil pour les pays où il y a des gens qui sont en guerre, où leur vie est menacée et où notre terre des droits de l'homme est d'accueillir ces gens-là. Mais effectivement, il ne faut pas que par ce biais-là, et l'Albanie est un très bon exemple, des gens rentrent pour justement avoir une meilleure situation économique. C'est un sujet différent. Il faut avoir d'un côté une immigration économique, le gouvernement est en train de réfléchir sur des quotas, sur certains métiers.
Mais si c'est plus facile de rentrer avec une demande d'asile, en fait, tu comprends même que les gens vont faire cette démarche.
Eh bien, ça ne devrait pas. Le seul critère pour une demande d'asile, c'est est-ce que oui ou non, dans le pays d'origine, votre vie est en danger? Est-ce que vous êtes maltraité? Est-ce que vous êtes discriminé? Est-ce que vos enfants sont en danger? Est-ce que les droits de l'homme sont en danger?
Mais peut-être que dans les critères, tu pourras avoir, est-ce que vous mourrez de faim chez vous, simplement pour des raisons économiques, avoir une demande d'asile?
C'est autre chose.
Mais ça, c'est ultra problématique parce que, soyons clairs, il y a des centaines de millions de personnes qui pourraient être amenées à venir disposer de cet asile économique en France. Donc, c'est ingérable. Et le problème, c'est que c'est quand même ce qui se profile si on ne revoit pas d'une manière ou d'une autre les critères de l'asile.
Donc, on doit être plus dur pour vous, Daniel?
Il y a des critères qui existent, oui, il faut être plus dur. Michel Rocard, 1989, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Mais elle doit prendre sa part.
Voilà.
Voilà. Mais oui, mais
c'est exactement voilà. Je pense qu'on a tout dit.
Oui, sauf que encore une fois, à un moment, il y a aussi de l'immigration.
Je pense que la
économique.
France a largement pris sa part.
Et c'est de l'immigration
dans les dernières décennies.
Oui, mais c'est de l'immigration régulière. Ici, on a.
C'est un autre souci.
Il faut
sortir une autre feuille, là, Rémi. Il faut qu'il trouve un autre une autre feuille qui dise immigration économique. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Là, on parle de des réfugiés politiques. C'est pas pareil.
Michel Rocard, donc au début des années 90, les demandes d'asile, c'était 10-20 000.
Voilà. Les temps changent. Et aujourd'hui, on fait face à une immigration qui est.
Bah, les temps changent, mais le climat change,
importante.
Les situations politiques changent.
Bah, donc, on ouvre tout et puis on laisse rentrer tout le monde.
Les pays où les droits de l'homme sont en danger sont de plus en plus nombreux. Donc, notre travail, c'est aussi de bien examiner ces demandes d'asile pour qu'elles ne soient pas dévoyées, mais qu'on accueille malgré tout les gens qui sont en danger dans leur pays.
Voilà. Et les situations.
On pouvait renvoyer chez eux tous ceux qui commettent des crimes ou des délits, ce serait déjà une bonne chose. Bah, sauf que ça, déjà, on a du mal avec ça.
On a du mal parce qu'il n'y a pas d'accord entre les pays.
Dans un moment, ça va être inextricable. Alors, on ouvre tout et puis on ne fait plus rien.
Mais non.
Mais tu vois bien que c'est inextricable. Quand tu as un pays avec lequel tu n'as pas d'accord, tu ne peux pas renvoyer.
Demande aux Français, et puisque les sondages d'opinion, c'est là-dessus que le gouvernement doit se décider, visiblement.
D'accord. Donc, on demande aux Français pour l'immigration, mais pas pour les retraites. Non, mais moi, je veux bien qu'on soit à géométrie variable.
C'est exactement moi qui étais en train de vouloir te prendre à ce piège-là. Voilà. Puisque visiblement, c'est les sondages d'opinion qui doivent guider la politique française. Fais les sondages là-dessus et tu vas voir si les Français vont être d'accord pour laisser rentrer des gens.
Encore une fois, tu peux aussi à un moment avoir d'autres critères que juste le critère politique. T'as aussi de plus en plus de pays où la situation climatique.
Non, l'asile politique, c'est un dossier, c'est un critère. Voilà, l'immigration économique, c'est autre chose. Non.
Si, la situation climatique, elle peut être un critère. Voilà, si quelqu'un n'a plus à manger chez lui, il peut demander à avoir l'asile en France. Ça doit être un critère aussi.
Moi, je suis hyper réservé comme Daniel là-dessus. L'asile politique, c'est vraiment pour des gens qui sont menacés de mort par les pouvoirs publics.
Par une situation climatique.
Oui, mais alors à ce moment-là, il faut prendre en considération le fait que ce sont potentiellement des centaines de millions de personnes qui pourraient demander l'asile.
Mais c'est ce qui va arriver, Julien.
Mais c'est pas ce qui va arriver.
Alors comment on va faire? Alors on laisse rentrer tout le monde alors?
Pour lesquels, je vous assure.
On étudie au cas par cas.
Ceci n'est même pas possible. En France, nous sommes bien plus généreux que ce qu'on entend dire généralement, en particulier par rapport à d'autres pays qui ont complètement changé d'orientation. Je pense aux pays nordiques, je pense très singulièrement au Danemark.
La Grande-Bretagne. La gauche et le programme de la gauche au Danemark. Le programme de la gauche au Danemark, c'est plus light que le Rassemblement National en France.
Oui, c'était tout à fait
exact. En Suède, c'est pareil. Mais nous, en France, allez hop, on ouvre, on laisse rentrer tout le monde.
En Allemagne, ils ont accueilli 1 million de personnes.
Ouais, mais d'accord, mais ils accueillent beaucoup moins aujourd'hui.
Regarde voir le programme de la gauche au Danemark. Tu vas voir.
Il faut terminer pour dire un truc sur les gens qui instruisent la demande d'asile, c'est-à-dire tout le service public qui instruit la demande d'asile. Ce sont des gens qui, globalement, font très bien leur boulot et qui n'ont pas forcément, eux, tous les moyens pour le faire.
Et c'est bien de le dire et de terminer avec ça.